Vous écoutez France Culture.
Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Pascal Boulanger, qui publie Fusée et Paprole aux éditions L'Acte Même. Que reste-t-il d'actuel pour un lecteur une fois passée l'actualité littéraire ? Les livres, Pascal Boulanger, vous savez très bien ce que c'est. Vous en avez déjà vu.
Oui.
Il vous arrive même de les aimer.
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut faire quand on aime un livre ?
C'est une histoire qui remonte un peu loin en arrière. C'est-à-dire que c'est quand j'avais 17, 18, 19 ans que je me suis intéressé à la littérature parce que ça part d'une idée qu'on ressent, une sensation que l'enfermement est général. Il est familial, il est scolaire, il est professionnel et qu'il y a peut-être une échappée possible. Alors voilà, on découvre la bibliothèque. Il se trouve que moi, j'ai été amené à la découvrir d'une manière un peu solitaire, puisque le choix que j'avais fait très jeune, c'était de quitter la scolarité, voilà, absolument aucun cursus. Donc voilà, je fréquente les bibliothèques publiques, les bibliothèques municipales à qui je dois énormément, et je découvre en effet la littérature.
La littérature ou une certaine littérature ?
La littérature, sans distinguer s'il s'agit de poésie ou s'il s'agit de roman ou s'il s'agit même d'essai. Ce qui m'intéresse très très vite, c'est dans la littérature en général, une pensée qui pourrait s'inscrire à contre-courant du contexte du siècle que je suis invité moi-même à traverser.
Vous pensez que ce contexte est plutôt sombre ?
Je pense qu'il est toujours sombre. Il est évident quand on est un jeune homme et qu'on lit, par exemple, Baudelaire qui dit que son cœur lui paraît flétri par la cohue, ça résonne. Qu'est-ce que c'est que cette cohue ? Qu'est-ce que c'est que ce cœur qu'il faudra bien mettre à nu ? Qu'est-ce que c'est que cette beauté à laquelle on n'a pas accès ? C'est cet ensemble de questions, en quelque sorte, qui surgit comme ça. Et très vite, pour moi. Et qui fait sens, voilà. Et qui fait immédiatement sens encore une fois, sans que les classifications, les clivages, les genres soient une priorité. Je lis, voilà, je lis.
Donc la bibliothèque vous a donné accès au monde d'une certaine façon, ou vous en a-t-elle éloigné définitivement ?
C'est un double mouvement en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il y a ce refus d'être en quelque sorte dans une parole qui soit qu'une parole parlée, c'est-à-dire qui crée du lien ou du faux lien, une parole de communication. Et ça nécessite sans doute un retrait. Ce retrait, c'est la littérature qui le permet. Et ensuite, on essaye d'accéder en tous les cas à sa propre parole, c'est-à-dire à ses propres sensations. Mmh. Il y a cette phrase de Spinoza, j'ai pas compris grand-chose sans doute à Spinoza, quand j'ai essayé de parcourir l'éthique. Mais enfin, il y a quelque chose qui a parlé pour moi d'une manière très, très rapide et très radicale. C'est cette phrase qui consiste à dire « Qui connaît son langage connaît son Dieu, et qui ignore son langage sert les idoles. » Quelque part, il me semble que c'est ce que Rimbaud évoquait quand il disait que le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d'hommes. Quelque part, il y a comme ça deux langages, en quelque sorte, qui se confrontent. Mmh. Voilà. Et je le sens très vite, très rapidement, d'une manière disparate, décousue, chaotique. Et c'est le premier intérêt pour moi.
Alors, vous disiez au début de cet entretien, Pascal Boulanger, que la bibliothèque vous avait permis d'échapper à l'enfermement. Est-ce que aujourd'hui vous ne vous êtes pas enfermé dans une bibliothèque, parce que la bibliothèque vous ne la quittez plus jamais ?
Très vite, je pense que la littérature a un rôle de dévoilement, et que ce dévoilement n'en passe pas que par la bibliothèque, c'est-à-dire par un tissu de référence, et que le livre ne vient pas se substituer à la vie réelle. Pour moi, c'est à la fois la traversée, le vécu, ce poids-là qui compte, et qui compte aussi dans la littérature, et en même temps, en effet, l'écriture, cette parole, qui à la fois dévoile ce qu'il en est, au fond de quoi, ce qu'il en est de l'esclavage consenti ou imposé, ce qu'il en est de la servitude ambiante, ce qu'il en est du lien social, ce qu'il en est de cet enchaînement des passions tristes. Tout ça, ça a des implications très concrètes, hein, je veux dire, dans l'existence. Ce qu'il en est du ressentiment, du chantage permanent, ce qu'il en est de nos rapports, en quelque sorte, quand ils sont uniquement basés sur le calcul, bon, sur le calcul, sur le pouvoir, sur l'absence de gratuité. Voilà. Donc, ce dévoilement se fait à travers l'expérience et se fait à travers la littérature. J'ai aimé, moi, les œuvres qui d'emblée se sont confrontés à ça, en quelque sorte. Et qui ensuite, dans un second temps, ou en même temps, proposent une échappée. Voilà.
Quand je disais que vous ne quittiez plus la bibliothèque, c'était au premier degré, à prendre à la lettre, puisque vous travaillez dans une bibliothèque.
Je travaille dans une bibliothèque après avoir fait beaucoup de métiers pénibles. J'ai eu cette chance. C'est sans doute rassurant pour moi d'être entouré de livres, et surtout c'est très rassurant de savoir que un certain nombre de livres qu'on a aimés peuvent être transmis en quelque sorte. Voilà, il y a un dialogue entre bibliothécaire et puis son public, et c'est vrai que pour moi c'est un beau métier. C'est un beau métier. C'est un beau métier, puis je suis fidèle à ça. Enfin, c'est-à-dire que j'ai grandi grâce aux bibliothèques, grâce à la décentralisation, grâce à ce qui se passait dans les maisons de la culture. On est à la fin des années 70. Et ces débats publics, et ces auteurs que je rencontrais, dont je découvrais l'œuvre, en même temps que je les écoutais, je les entendais, et ces livres ensuite qu'on faisait acheter à la bibliothèque et que je lisais avant de les proposer. Bien sûr, tout ça, c'est un contre-pouvoir. J'allais dire, c'est pas un contre-pouvoir, mais il est évident que la lecture des œuvres est un peu différente que si on en passe par le circuit universitaire. Voilà.
Mais qu'est-ce que ça a changé dans votre rapport au livre, le fait de vivre en permanence environné de livres, qu'on ouvre ou qu'on n'ouvre pas, mais qui sont là et qui constituent un monde?
Je ne porte pas toute cette mémoire, bien évidemment. Je pense que sans doute... Je ne sais pas, c'est une question difficile. C'est une question difficile parce que je sais que la bibliothèque est là, ma bibliothèque et puis la bibliothèque dans laquelle je travaille. Je sais que les livres sont là, ils sont disponibles, je peux les avoir quand je veux sous les yeux. Je peux... C'est un rapport presque, j'allais dire... Ça ponctue, enfin, pour moi. C'est évident que la lecture a ponctué mon quotidien. Enfin, c'est un rythme, c'est un autre souffle, en fait. C'est une autre ampleur, c'est une autre existence. Et en même temps, elle adhère, elle colle absolument à l'existence, à la vie en dehors des livres. Mmh. Voilà. Et j'aime assez, encore une fois, que ce soit dans le domaine romanesque ou dans le domaine poétique, j'aime assez qu'il y ait ce mélange où on sente qu'il y ait... le poids du vécu, quelque chose qui est de cet ordre-là, que ça corresponde à une nécessité, voilà. Et qu'en même temps, il y ait cette confiance, ou ce travail, sur la vraie parole, la parole qui parle, voilà.
Parmi tous ces livres, en attente, dans les rayonnages des bibliothèques, il y a les vôtres, Pascal Boulanger. Des livres de poèmes, pour la plupart.
Oui, oui, c'est un peu pour moi la même chose. Je ne suis pas critique professionnel. Je ne suis pas un critique professionnel, c'est-à-dire que je n'ai pas de commande. C'est moi qui propose à certaines personnes qui s'occupent, qui dirigent des revues, s'ils sont d'accord ou non pour que je publie telle ou telle chronique, ou entretien, ou article, ou note de lecture sur tel ou tel auteur. La poésie que je tente d'écrire, je crois, a été évidemment marquée par les livres que j'ai lus, bien entendu, parce qu'on n'écrit pas seul, mais c'est dit autrement, mais ça reste, me semble-t-il, je sais peut-être un peu bon, la formule, mais c'est de la pensée critique. Voilà, hein, c'est-à-dire que quand je suis amené à chroniquer un recueil, un livre, un texte, je suis aussi dans la poésie. J'essaye d'être très proche du souffle, du rythme que je sens dans le livre que je lis. Et quand j'écris, c'est ma voix qui s'ajoute, mais ça s'ajoute en quelque sorte, ça ne se retranche pas. C'est la même chose, c'est le même travail, même si la prosodie est différente, évidemment. Même si je vais utiliser de la poésie pour dire un certain nombre de choses et que je vais utiliser de la prose pour faire un article, j'allais dire, ça participe pour moi à la même, volonté de dire ce qu'il en est, encore une fois, de cette guerre du goût et comment s'en dégager. Voilà, hein, les livres qui m'intéressent, ce sont à la fois les livres qui dévoilent, qui sont dans le dévoilement et qui sont dans le dégagement. Voilà.
Le livre qui a précédé Fusée et Paprole, chez le même éditeur, Compact, s'intitule Suspendu au récit. La question du nihilisme. Et cette question, c'est celle à laquelle vous essayez de répondre, finalement, par mmh. votre travail d'écriture, comme par votre travail de critique. Mmh. À savoir, qu'est-ce qui peut nous protéger de la destruction, aujourd'hui, de la destruction du monde, ou de sa destitution.
Oui.
Question mmh. qui n'est pas une question de fiction.
Oui. Oui, oui, c'est en effet la question qui m'est posée depuis des années. Au fond, je pense que c'est Deleuze qui la résumait assez bien. La question, c'est comment trahir le repas familial, hein, ce qu'il appelait le repas collégial. Comment trahir ce qui vient d'être dévoilé, justement, hein, c'était toutes ces facettes du nihilisme avec son ampleur et qui touche évidemment au langage, mais pas uniquement au langage, qui touche à la vie des sens, qui touche à la vie tout court, enfin bon. Comment, en effet, sinon, par l'écriture, qui est déjà en quelque sorte une trahison de ce pacte-là, et quelle posture de vivant adopter ? Je dirais qu'il y en a deux. Et les deux m'intéressent. Il y en a une, si vous permettez, je vais juste la lire, c'est très très court. Elle est résumée parfaitement par Kafka, que je cite dans Fusée et Paprole, et qui dit la chose suivante. Il n'est pas nécessaire que tu sortes de ta maison, reste à ta table et écoute, n'écoute même pas, attends seulement, n'attends même pas, sois absolument silencieux et seul, le monde viendra s'offrir à toi pour que tu le démasques. Bon. Vous avez cette posture-là, qui n'est pas du tout une posture de décagement radical, c'est-à-dire on est en même temps dans l'écoute, hein, mais on attend, on laisse venir les choses, voilà, les choses qui s'ouvrent, les choses qui se ferment. Et puis alors, si vous avez une littérature qui rend compte d'un grand plongeon, c'est tout le travail que j'ai aimé faire autour, par exemple, des avant-gardes. Que ce soit celles qui se sont incarnées à travers le futurisme ou à travers le surréalisme ou des grandes singularités d'écriture qui intègrent comme ça, qui se confrontent, qui sont dans la vie militante même, enfin bon, dans l'engagement, voilà, hein, mais c'est un engagement qui déjoue peut-être aussi d'ailleurs le nihilisme.
Placé sous la protection de Franz Kafka, je vous comprends, Pascal Boulanger, mais vous aviez annoncé un autre texte que vous vouliez lire.
Oui, oui, oui. C'est peut-être pour faire, pour prolonger votre question liée à la question du nihilisme. Son dévoilement là, mais ce qui reste posé, c'est est-ce que il faut rester fixé sur la négation ou au contraire est-ce qu'il y a une possibilité de s'en dégager? Alors le dégagement, c'est quand même une question qui me semble assez essentielle et qui a été posée comme ça très nettement, poétiquement, très nettement par Rimbaud, me semble-t-il, puisque le mot même dégager, dégagement, apparaît au moins deux fois dans l'œuvre. C'est le dégagement rêvé. Chez Rimbaud, c'est génie. C'est le poème qui conclut les illuminations. C'est-à-dire, c'est cet amour, qui est aussi l'amour de la langue, bien évidemment, qui est sans cesse à réinventer. Et je crois que le dégagement aussi, c'est la circulation, c'est-à-dire on doit circuler, hein, on ne doit pas rester comme ça fixé. Moi, j'ai une image de l'enfer qui est très liée comme ça à quelque chose de glacé. Hein. C'est Marcelin Plaisnet, dans un de ses premiers livres, qui, dans Provisoires amants des nègres, je crois qu'il disait « Nous sommes dans un pays gelé ». Alors, on était en pleine guerre d'Algérie. « Nous sommes dans un pays gelé », voilà, cette vision. Donc, comment être ailleurs, sinon à travers, en effet, la circulation, c'est-à-dire le lyrisme. C'est la question du lyrisme. J'aime les œuvres lyriques. J'aime les œuvres lyriques et je crois, et c'est le texte que je voulais aussi vous lire, que je cite, que Martine Broda avait publié un essai chez Corti qui s'appelle « L'amour du nom » et où il y avait un texte sur le lyrisme qui me semblait très, très intéressant. Voilà ce qu'elle écrit, Martine Broda. Elle dit « La poésie survivra à ceux qui croient que le langage peut être libéré du sens. Elle survivra aux galipettes formalistes, à la blancheur squelettique exténuée, par laquelle on s'efforce d'imiter l'abstraction minimale picturale, alors que la poésie ne peut aller dans le dépouillement aussi loin que la peinture en raison du lien du langage au désir, qu'on ne tranche qu'au risque de tout perdre. Elle survivra peut-être même dans ce qui constitue de toujours son noyau dur, le lyrisme, que certains identifient à l'enflure du moi, alors que le lyrisme authentique, c'est le chant du monde et non du moi, comme a su le voir Nietzsche dans La naissance de la tragédie. » Voilà. Comment opposer son propre chant à la négation générale, c'est, me semble-t-il, la question qui en tous les cas fait sens pour moi.
Et c'est cette question que vous explorez dans un autre champ, qui est le champ poétique contemporain, depuis une quinzaine d'années. Et le livre qui paraît aujourd'hui aux éditions L'Acte Même, Fusée et Paprole, en est le témoignage, puisque vous avez rassemblé là un certain nombre des chroniques de poésie et des entretiens, pas forcément avec des poètes, que vous avez mené dans différentes revues depuis une quinzaine d'années.
Moi, je souhaitais faire le bilan pour moi, puisque, en effet, il y a des chroniques, des entretiens, des notes de lecture, des extraits de journal, des inédits, d'ailleurs des choses que je voulais intégrer dans ce livre. Enfin bref, tout ça a été dispersé ici et là. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a une cohérence dans ce travail qui a été fait sur plusieurs années, puisque je publie mon premier article en 1985, dans la revue Europe d'ailleurs, grâce à Jean-Baptiste Parra. C'était un article sur le journal de Louis Calaferte, bon, sur un des volumes du journal de Louis Calaferte. Voilà. Alors, la question que je me pose il y a quelques mois, quelques années, c'est est-ce qu'il y a une cohérence ? La cohérence, je crois l'avoir dessinée un peu avec vous tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai compris quels étaient, à travers ces livres que j'ai chroniqués, ce que je cherchais, moi, dans la littérature, ce qui m'intéressait.
Et votre titre, alors, qui est très allusif, comment l'entendre, Fusée et Paprole ?
Alors, Fusée, c'est un hommage à Baudelaire, c'est-à-dire que c'est un hommage, au fond, à la pensée qui s'inscrit à contre-courant de son époque. C'est le moins qu'on puisse dire. Quand même, Baudelaire, la première fusée, dit la chose suivante. Quand même Dieu n'existerait pas, la religion serait encore sainte et divine. Ce qui est quand même très gonflé en plein 19e siècle naturaliste, positiviste et réaliste. Qu'est-ce que c'est que cette affaire de religion tout à coup qui apparaît là ? Paprol, c'est évidemment une référence à Proust.
C'est un poète de la prose.
Oui, exactement. Exactement. Oui, c'est une formule à laquelle j'y adhère tout à fait. C'est une mémoire sensible, c'est un temps sensible qui est convoqué là, alors pas à travers des fusées, à travers des paperoles, c'est-à-dire ces choses comme ça qui s'ajoutent à d'autres, enfin, cette série d'épiphanies qui forment l'œuvre romanesque de Proust. Et ce qui m'a un peu amusé quand même, c'est qu'on sait que Proust a lu Baudelaire. Hein. Proust a lu Baudelaire et il a lu notamment les fusées. Et on a peut-être oublié, mais Proust dit à propos de ces fusées de Baudelaire... À propos de Baudelaire, il dit « C'est le prophète le plus désolé depuis les prophètes d'Israël ». Baudelaire est donc le prophète le plus désolé depuis les prophètes d'Israël. C'est quand même pas rien. Qu'est-ce que vient faire Israël dans ces questions-là? Qu'est-ce que vient faire ce temps sensible dans ces questions littéraires? Chez Baudelaire à travers les fusées, chez Proust à travers le roman. Qu'est-ce que ça veut dire sinon que, au temps de la négation, voilà deux singularités qui vont essayer d'opposer un autre temps et qui est étrangement le temps prophétique. C'est pas le temps linéaire, c'est pas le temps cyclique, c'est le temps prophétique. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète, sinon quelqu'un qui annonce à la fois ce qui est en train de se passer. Et là, je crois que c'est fondamental, cette notion du temps sensible, du temps singulier, la façon dont le temps est traversé, et que c'est posé de la même manière et d'une manière tout à fait différente chez un poète comme Baudelaire ou chez un romancier comme Proust, et puis évidemment après, ça va se poser évidemment sur les livres que je tente de chroniquer. Et là, on est dans quelque chose, me semble-t-il, qui est parfaitement bien résumé par Saint-Augustin, c'est-à-dire on est dans le présent du passé, le présent du présent, le présent du futur. Voilà, c'est en quelque sorte ces trois temps qui sont à la fois différents et identiques, qui va être creusé à travers cette adhésion à la parole. Voilà.
Mais ces livres que vous tentez de chroniquer, comme vous dites, ce sont des livres qui ont en commun de dessiner un avenir.
Je ne sais pas, ça. Est-ce que ça dessine un avenir? Est-ce que ça dessine un avenir ou est-ce qu'au contraire, ça dessine un temps qui à la fois, encore pour reprendre Saint-Augustin, à la fois est passé, est présent et futur, et qu'on est continuellement devant cette problématique-là. Oui, bien sûr, ça parle pour plus tard. Ça parle pour plus tard, comme on est contemporain parfois d'ailleurs de manière beaucoup plus radicale de Tacite, de Sénèque, de Baudelaire que de nos propres contemporains, que des vivants. Je ne sais pas si ça parle pour l'avenir, en fait. Voilà, j'ai une vision du temps qui est beaucoup plus dans l'instant, en quelque sorte. Ça parle à l'instant, voilà, à l'instant même où je lis, ça parle.
Mmh. Voilà. Ça parle et ça mêle l'expérience de l'instant à la pensée de l'avenir.
Oui, ça. Alors c'est comme si l'instant, dans ce cas-là, devait s'inscrire dans une éternité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a bien fixé, en quelque sorte, la négation, qu'on tente de s'en dégager parce qu'il n'y a aucune raison d'honorer le mal, comme disait l'autre Hamon. Parler du mal, c'est lui faire trop d'honneur. Sans doute qu'on est dans un temps qui est délié. Voilà. Alors, et ce temps délié, cet instant délié, engage en quelque sorte son être, projette en tous les cas son être.
Mmh. toutes ces chroniques, ces entretiens, ces notes de lecture, vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, ne sont pas des travaux de commande, ce sont des choix que vous avez faits qui correspondent à vos goûts, à vos préoccupations du moment. Et vous disiez aussi que c'était un poète qui lisait et qui écrivait sur les poètes. Qu'est-ce que ça veut dire, lire en poète ?
Je ne sais pas, c'est difficile que ce soit moi qui réponde à cette question.
Mais pour l'instant, vous êtes seul.
Oui, bien sûr. Non. C'est
avoir simplement son crayon dans la main.
Oui. J'ai tendance à vouloir. Ça se fait d'emblée, d'ailleurs. C'est pas comme ça une volonté qui s'inscrit. J'aimerais bien signer les livres que je lis, par exemple. Il y a des livres que j'ai lus, ou des phrases que j'aimerais les signer. Je les sens, je les comprends. Je suppose que j'ai fait une traversée non pas identique, mais qui est en tous les cas très proche. Et je n'ai pas de... Si vous voulez, c'est un peu bête de dire ça, peut-être. J'ai une grille de lecture qui est essentiellement sensible. J'ai une grille de lecture qui est essentiellement sensible. Et c'est cette perspective-là qui m'intéresse. Hein. C'est-à-dire, c'est de sentir qu'est-ce qui s'ouvre à un moment donné dans l'écriture et qu'est-ce qui s'ouvre donc pour moi dans ce que je lis. Qu'est-ce que c'est que cette sensation de fermeture et en quoi, en effet, cette sensation de fermeture, je peux la ressentir, même si les époques sont complètement différentes. Qu'est-ce que c'est que cette esthétique, tout à coup, qui surgit ici et là, sur un certain nombre de places, dans certaines villes, dans certaines églises, et que je suis en quelque sorte complice, par exemple, de l'extase de Sainte Thérèse d'Avila, ça peut arriver, ou de telle volute, ou de telle... Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette nature qui peut aussi surgir, qui peut se déployer, à la fois dans le poème et dans la vie ? Tout ça, c'est un... Oui, c'est un ensemble sensible qui me permet d'adhérer ou non à une œuvre, en fait. Mmh. Voilà. De la comprendre, et d'essayer de rendre compte.
Les œuvres, alors quelles œuvres ? J'étais frappé par l'emploi que vous avez fait à plusieurs reprises dans cet entretien du mot « cohérence ». Car ce qui saute aux yeux quand on lit votre livre « Fusée et Paprole », c'est au contraire le côté un peu désordonné, disparate des lectures que vous avez finalement rassemblées.
Oui, c'est vrai, c'est très vrai. C'est à la fois disparate, désordonné. Je crois d'ailleurs que c'est tout simplement lié au fait que je sois un autodidacte, si on veut aller comme ça très vite. Et je crois qu'en même temps, il y a une cohérence. D'abord, la première cohérence, pour moi, c'est, bon, je pourrais la résumer par cette phrase de Barthes que je trouve quand même assez, assez belle, c'est que le plaisir d'une lecture garantit sa vérité. Ensuite, il faut s'entendre évidemment sur plaisir et sur vérité, mais ça me paraît quand même essentiel. Ensuite, la cohérence, j'ai mis du temps à la trouver. J'ai vraiment mis beaucoup de temps à la trouver. Et il y a un schéma qui, pour moi, est... parce que quand même, je revenais comme ça très souvent. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup d'auteurs, peut-être beaucoup trop d'ailleurs, je ne sais pas. Et que c'est pas, oui, c'est pas une monographie, c'est pas un livre sur Baudelaire, par exemple, c'est pas un livre sur Proust, bien évidemment, c'est pas. Mais il y a ce schéma qui pour moi est un schéma qui a guidé, je crois, et qui se révèle cohérent. C'est un peu le schéma rimbaldien. C'est le schéma rimbaldien, c'est celui de... Et d'ailleurs que j'ai reproduit dans mes propres textes. Ça part toujours d'une situation où on est dans l'enfermement Et ça s'échappe et ça se dégage. Hein. C'est une saison en enfer. C'est une saison en enfer. Ce n'est qu'une saison en enfer. Hein. C'est pas l'enfer tout le temps. Et ce sont les illuminations. Hein. C'est le surgissement comme ça épiphanique du temps. Hein. C'est quelque chose qui surgit au-delà de nous-mêmes d'ailleurs. Mmh. Et c'est d'ailleurs un schéma que j'emprunte. C'est cette cohérence-là que j'ai trouvée moi, hein, un peu tardivement d'ailleurs. C'est ce schéma-là que j'aime beaucoup dans les œuvres que je lis. Et quand je les retrouve, voilà, c'est pour ça qu'il y a un certain nombre d'auteurs auxquels je suis très attaché d'ailleurs, parce que les livres sont structurés comme ça. Mmh.
C'est quand ça chante, quand la ligne se met à chanter.
C'est quand ça chante après avoir été empêché de chanter. Voilà, hein, c'est que il y a toujours un empêchement. Et puis ensuite, ben voilà, c'est tu te dégages, voilà, c'est et tu voles selon, voilà, mmh. Ça vole, ça circule, voilà, ça chante.
Et vous, le lecteur, vous vous efforcez de parler de tous ces textes qui s'efforcent eux aussi de dire ce qui est pratiquement impossible à dire, ou en tout cas très difficile.
Oui, ça peut prendre une forme très très courte d'ailleurs, comme ça peut prendre un entretien, où là je m'efface. C'est pas moi qui parle d'ailleurs dans ce livre Fusée et Paperolles. J'essaye de faire parler, d'ailleurs je m'en moque un peu s'il y a même des contresens. Je ne sais pas d'ailleurs quelle est la réception hein, des auteurs, des livres que j'évoque. Ça peut être très nerveux. J'ai fait une petite note de lecture sur Whitman. Je sais que c'était très court, mais j'ai voulu que ce soit un rendu comme ça extrêmement poétique, parce que il y avait pour le coup une telle circulation, un tel lyrisme dans cette œuvre-là, que j'ai voulu que ce soit quelque chose de très bref comme ça. Ça ne nécessitait pas du tout du bavardage, à mon avis. Bah, parfois, ça peut prendre des formes beaucoup plus longues. Quand j'interroge Jacques Henrique, par exemple, il est évident que je me dis que c'est beaucoup plus intéressant de situer son œuvre dans un contexte qui était d'ailleurs plutôt agité, puisqu'il a participé à des aventures notamment à travers Tel Quel. Enfin bon. Et donc là, ça m'intéresse de creuser un peu, voilà. Donc ça prend des formes très différentes.
Mmh. On sent bien d'ailleurs que dans votre berceau, puisque vous disiez tout à l'heure que vous étiez né intellectuellement dans les années 70, il y avait sous votre oreiller la collection complète de Tel Quel.
La collection, oui, complète de Tel Quel, avec d'abord pour moi un accès difficile. Très vite quand même, une distance qui se résume à cette question. Est-ce que nous avions affaire à de la théorie au service de la littérature ou de la littérature au service de la théorie? Tel quel, c'est un peu compliqué parfois. Mmh. Ce qui m'a intéressé, ce sont un certain nombre de singularités très fortes. Là, ce sont des livres, en fait, qui comptent. Mmh. Il est évident que j'ai été marqué par le livre partagé de Pierre Rothenberg. Il est évident que j'ai été marqué par les livres de poésie de Jacqueline Risset. C'est vrai aussi pour Carousel de Jacques Henrique, qui pour moi est un très très grand livre, peut-être un des meilleurs livres publiés dans la collection telle qu'elle. C'est vrai que j'ai beaucoup apprécié, plus que ça d'ailleurs, je trouve que c'est un très grand poète, Marcelin Plénet. On pourrait comme ça multiplier un peu des exemples, des livres, des titres. Je trouve qu'ensuite, il fallait le faire, mêler Derrida, je ne sais pas trop qui, à Althusser, tout ça c'est un peu, c'est pas ce que je conserverai de tel quel en tous les cas.
« Fusée et paperolles, le livre de Pascal Boulanger est publié aux éditions L'Acte Même. Du jour au lendemain, Angélique Thibault, Didier Pinault, Alain Weinstein. Bonsoir.